radio Okapi. Okapi.
Okapi Service. Jody Daniel Kachama.
Okapi.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette deuxième partie de votre magazine de la vie au quotidien, au Okapi Service. Nous allons échanger à présent autour de l'agribusiness. Comment promouvoir et encadrer l'agribusiness en RDC? Monsieur David Moudilo, directeur général de Connect, un cabinet de consultance et de conseils en développement, est notre invité. Monsieur Moudilo, bonjour.
Bonjour Jeudi et merci de me recevoir encore une fois dans Okapi Service.
Bienvenue dans cette émission et on aura également en ligne depuis la ville de Goma le professeur Fabrice Loukeba qui est conseiller stratégique du projet Kala qui veut dire tout simplement Kivu Agro Leader Academy de MHAB, un incubateur agricole qui se trouve à Goma dans la province du Nord Kivu. Des questions et préoccupations? Appelez déjà au 099-706-9941, écrivez-nous à service@radiookapi.net, Debs Evita, la mise en onde. Jonathan Chimanga assure les directs sur les plateformes digitales des radios Okapi. Tati Mapuku coordonne et réalise cette émission ensemble avec Naomi Mutoke, Jody Daniel Kachama au micro. Bienvenue à tous.
Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service.
Bienvenue dans cette deuxième partie de votre émission. Vous savez, plus de 70% des jeunes Congolais sont sans emploi stable, alors que le pays dispose plus de 80 millions, près de 80 millions de terres arables et d'un climat favorable à l'agriculture durant toute l'année. Eh bien, l'agriculture est perçue aujourd'hui comme une activité de survie, alors que ce secteur possède un fort potentiel. Pour de nombreux experts, l'agriculture doit redevenir le moteur du développement afin de relever le pari de la revanche du sol sur le sous-sol. Certains jeunes qui décident de se lancer dans l'agribusiness manquent de formation pratique, ils n'ont pas de financement et ils ne bénéficient pas d'un accompagnement après la formation. Alors, et pourtant, on peut bien faire des affaires dans l'agribusiness, voilà, et créer de la richesse. Alors, comment arriver à mettre en place un bon système d'accompagnement des agripreneurs, parce qu'il y en a déjà dans notre pays? Monsieur David Moudilo est expert dans les domaines, il est directeur général de Connect, un cabinet de consultance dans le domaine entrepreneurial et c'est un cabinet conseil en tout ce qui concerne les développements. Alors, David Moudilo, l'agribusiness, quel état des lieux vous pouvez faire de cela dans notre pays?
Merci, Jody. Donc, d'abord, je voudrais qu'on essaie de définir c'est quoi agribusiness. Mmh. Vous savez, l'agribusiness, c'est toutes les étapes qui font que la nourriture vient du champ jusqu'à l'assiette du consommateur. Ce n'est pas juste l'activité de production, mais derrière tout ce qu'on appelle agribusiness, il y a un ensemble d'acteurs de la chaîne de valeur jusqu'à l'assiette du consommateur.
Jusqu'au
consommateur final. Okay? Mmh. Donc, dans toutes ces étapes, vous avez d'abord, par exemple, les fournisseurs d'intrants agricoles. Okay? Il y a différents types d'intrants. Il y a les semences, mais aussi il y a tout ce qui est intrants, engrais, etc. Okay? Après, vous avez les producteurs. les producteurs, qu'ils soient grands ou petits producteurs agricoles. Après, vous avez un certain nombre d'acteurs de la chaîne de valeur à valeur ajoutée. Donc, vous avez des transformateurs, vous avez les unités de stockage, vous avez les transporteurs, vous avez les distributeurs de produits agricoles.
Ceux qui sont dans l'emballage.
Ceux qui sont dans l'emballage, bien entendu, ça fait partie de la distribution.
Distribution.
Et après, vous avez maintenant l'acteur qui vient acheter pour sa propre consommation. Lui, c'est le consommateur. Mais maintenant, dans l'agribusiness, nous devons comprendre de quoi a besoin le consommateur pour essayer de favoriser toute la chaîne pour que le consommateur ait des produits frais, des produits de bonne qualité issus de notre terroir. Et c'est possible, ok ? C'est possible. Maintenant, que faut-il faire ? Il faut des mesures. Vous savez, le chef de l'État a convoqué une table ronde dernièrement autour de l'emploi des jeunes et de l'entrepreneuriat des jeunes. Et l'agribusiness est au centre, devrait être au centre
de Mais déjà, est-ce que les jeunes s'intéressent à l'agriculture ?
Oui, mais quand on évalue les jeunes, on ne peut pas évaluer que les jeunes qui sont dans les milieux urbains. Ce n'est pas que les jeunes qui sont à Kinshasa. Lorsqu'on parle de la RDC, on parle de la RDC avec les 26 provinces, on parle de la RDC à peu près 100 millions d'habitants. Dans les provinces et dans les zones urbaines, nous avons quoi ? Nous avons à peu près autour de 30 à 35 millions d'habitants. Donc nous avons 65 millions de notre population qui vivent dans les zones rurales. Et aujourd'hui, il est de la responsabilité de l'autorité publique de créer des conditions pour que les zones urbaines et les zones rurales aient des facilités de création d'emplois et de création de richesses. Alors, l'agribusiness apparaît comme la principale source de création d'emplois et de richesses dans les zones rurales. Alors, aujourd'hui, il est appelé à l'autorité publique de réfléchir comment créer ces business-là dans les zones rurales. Et c'est des business qui peuvent faciliter à la fois des jeunes qui sont dans les milieux ruraux, mais aussi les jeunes qui sont dans les milieux, ce qu'on appelle les milieux périurbains. Donc autour de Kinshasa, nous avons la commune de Baloukou, la commune de Nselé, il y a un certain nombre de communes qui sont des communes périurbaines. Donc l'agribusiness touche aussi les jeunes qui sont dans les milieux urbains et aujourd'hui nous voyons beaucoup de jeunes, même ici à Kinshasa, qui sont intéressés par l'agribusiness. Maintenant il faut comment les encadrer.
Il y en a déjà quelques agripreneurs.
Il y a énormément d'agripreneurs. C'est l'un des secteurs où on a beaucoup de créativité parce que beaucoup de jeunes qui n'arrivent pas à trouver de l'emploi commencent même à faire de l'agri-business, même dans leur propre parcelle à la maison. Commencent même à faire du petit élevage dans leur propre parcelle. Commencent même à produire des petits légumes, même des fruits dans leur propre parcelle. Donc, maintenant, comment les encadrer ?
Et les fruits, ils peuvent les transformer, créer du jus, voilà. Tout ça et beaucoup d'autres
Exactement.
Choses.
Exactement. Les fruits aujourd'hui qui sont produits autour de la ville de Kinshasa bénéficient d'un réseau malheureusement informel de collecte et de distribution à travers des points de distribution un peu sur les grands marchés de Kinshasa. Nous avons le marché de Zigida, nous avons le marché de Gambela, nous avons le marché de Ipen, nous avons le marché de Zigida, non, l'autre marché de après Ipen.
Après, voilà, je crois, Matadikibala.
Voilà. Donc, le circuit est là, mais ce circuit est informel. Aujourd'hui, ce circuit-là ne bénéficie pas d'inclusion financière. Donc, ce sont des acteurs qui font des échanges informels. On ne sait pas les tracer. Mais si on pouvait aujourd'hui les encadrer à travers un programme, il y a eu quelques programmes qui malheureusement n'ont pas pu bien les encadrer. Si on pouvait les encadrer, faire de l'inclusion financière dans ce circuit, dans cette chaîne de valeur, vous verrez que d'ici 2-3 ans, plus de jeunes seraient impliqués dans ce secteur.
Donc on peut par exemple les regrouper en association, les producteurs des jus par exemple, jus de fruits, jus naturels, producteurs de ceci, ils se regroupent et puis voilà.
Mais il n'y a pas que les producteurs de jus. Kinshasa c'est une ville qui est approximativement à 20 millions d'habitants. Donc c'est 20 millions d'âmes qui consomment aujourd'hui tous les jours il y a 20 millions de personnes qui consomment des fruits, des légumes, un certain nombre de choses. Mais la plupart des produits qui arrivent dans les assiettes des Congolais et des Quinois viennent de circuits informels. Et c'est ça le plus grand problème. Mais vous avez, selon les chiffres de la Banque mondiale, autour de Kinshasa, les gens consomment à peu près 2 dollars par jour et par personne, dont la moitié est utilisée pour la consommation alimentaire. Ça veut dire qu'à Kinshasa, il y a environ 20 millions de dollars qui circulent juste pour l'achat des produits alimentaires. Est-ce que vous imaginez que chaque jour, il y a 20 millions de dollars qui circulent? Maintenant, si ces 20 millions de dollars étaient canalisés vers des jeunes qui produiraient du gombo, du feuilles de manioc.
Et les transformer.
Et les transformer. La transformation devrait être utile lorsqu'il y a de la valeur ajoutée derrière la transformation. Okay? Donc, celui qui produit par exemple le gombo, on n'a pas forcément besoin de le transformer. Mais on a besoin que ça soit des cycles courts. Entre la zone de production et l'assiette, ça soit un cycle court. Comme ça, ça ne perd pas de sa valeur nutritive. Mmh. Le pondou, oui, il a besoin d'être transformé. Donc, il doit y avoir des mécanismes de transformation jusqu'à l'assiette du consommateur quignon. Les autres légumes,
le manioc,
tout ça. Tous, et après, on a aussi tout ce qui est maïs, tout ce qui est riz, tout ça doit pouvoir bénéficier d'un accompagnement pour que ça arrive dans l'assiette de quinoa. Et après, nous avons maintenant les sources de protéines. Tout ce qui est viande, poisson, il faudrait qu'on ait des cycles courts qui permettent à ce que les quinoa mangent de la nourriture de qualité au lieu de manger la nourriture que nous mangeons tous qui vient de Brésil, de Namibie.
Et importé et tout ça.
Importé.
Voilà, merci à tous les auditeurs qui sont intéressés et qui appellent déjà pour poser des questions. Nous avons déjà en ligne Jérémy Mwamba depuis la ville de Lubumbashi. Bonjour Jérémy.
Bonjour Monsieur Jody et bonjour également à l'invité. Personnellement, je salue la pertinence de ce sujet. Vous savez, l'agriculture ici chez nous commence à devenir comme étant un registre beaucoup plus négligé. Et vous avez pour preuve, dans notre budget, ce qui est alloué dans la cause de l'agriculture. C'est là que nous disons qu'il y a des situations pour lesquelles qui demandent un peu à ce que nous puissions avoir ce qu'on appelle l'esprit à cœur. Parce que, vous voyez, ici chez nous, nous avons, c'est comme vous l'avez dit, nous avons autant de terres arables, mais qui sont jusque-là, qui ne sont pas bien exploitées, n'est-ce pas, rationnellement, parce que tout simplement, on essaye de privilégier autre chose, alors que nous sommes en train de laisser un registre qui peut facilement sauver notre pays. Vous savez, nous avons des terres qu'il faut pour que notre pays puisse décoller sur le plan économique. Malheureusement, nous importons tout de l'Est, plutôt de l'extérieur. Même les riz que nous pouvons facilement ici produire, n'est-ce pas, si on y mettait du sérieux, surtout avec les registres tels que des femmes maraîchères. Nous avons une grande jeunesse qui est totalement, je ne sais pas, attentiste, mais peut-être parce que l'État congolais lui-même ne sait pas, n'est-ce pas, connaître qu'il a une main-d'œuvre considérable qui peut facilement bousculer, n'est-ce pas, les choses et que le pays peut facilement décoller. C'est là que j'ai dit ceci. Il faut peut-être le ministère qui est là, n'est-ce pas, en charge peut-être de l'agriculture, puisse, n'est-ce pas, présenter ses cahiers de charges au niveau du gouvernement, y compris aussi avec les législateurs congolais qui doivent, n'est-ce pas, relever ce levier, n'est-ce pas, pour bousculer à ce que le budget alloué, n'est-ce pas, à l'agriculture soit peut-être puisse connaître quand même un essor considérable. C'est là que les deux choses, les deux pôles n'arrivent pas à se retrouver. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes en train de voir que il y a des terres qui sont on assiste même aujourd'hui à ce qu'on appelle l'exode rural, parce que tout simplement les gens qui sont au village ne sont pas pris en compte. Qu'est-ce qu'ils se disent? Bon, on ne sait pas évoluer ici, nous n'avons même pas des intrants, nous n'avons pas des outils nécessaires pour pouvoir évoluer. Nous avons une jeunesse aujourd'hui qui entre dans des maisons en train de voler tout simplement parce qu'elle est désœuvrée, elle ne sait plus comment. Donc une jeunesse qui est totalement sous la rue, et vous avez même quand vous regardez ici chez nous à Lubumbashi, à un moment je me pose des questions. La jeunesse est plus focalisée sur les registres de transport, avec des bruits tout le temps.
Bien, sur les avenues, merci beaucoup.
Alors que d'accord. nous devrions prendre tous ces gens, les orienter vers l'agriculture et oui. allouer de montants considérables. Et ça pouvait peut-être bousculer les choses. Et notre pays peut décoller facilement parce que nous avons une jeunesse qui a une crème, un pourcentage considérable, malheureusement, qui est totalement délaissé comme ça.
Bien, merci.
Lorsqu'on a
oui, merci beaucoup, Jérémy. Merci beaucoup. Nous parlons de la promotion de l'agribusiness. Joseph Talikasi, Blaise à Kisangani et Justin Koulou à Fungurume. Joseph, bonjour. Quelle est votre question?
Bonjour, bonjour Radio Capi, bonjour à l'invité.
Oui, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à l'agribusiness?
Oui, moi je donne une question à l'invité et un petit témoignage. Je peux poser une question à l'invité. Comment peut-on arriver à développer notre agriculture, ce qu'on appelle l'agrobusiness?
D'accord. Alors,
ce sont des questions, je dis. Est-ce qu'il faut être à l'informel toujours, ou bien il faut être à informel pour que vous trouviez quelques subventions qui peuvent nous donner à aller de l'avant. À mon exemple, hier, je viens de faire quitter 200 kilos des amarandes à ma possession. Mais je ne trouve pas les gains de cause. J'ai cultivé des aratides de grande taille. Je suis le cultivateur de grande taille. Mais à ma professeur, je ne vois pas quelqu'un qui peut m'aider d'aller de l'avant. Maintenant, le cultivateur est invisible. Et pour nous qui faisons ce chat-là, nous assistons à cette mesure de plantes des amarandes pour 150 000 francs. Mais on nous achète aujourd'hui 100 kilos pour 150 000 francs. Mais imaginez ces montants-là, où est-ce que vous allez produire? Mais nous produisons les choses, nous allons faire l'endroit où va partir notre production. Je vais faire quoi avec cette
Vous n'avez pas, il y a des problèmes de marché.
Pour avoir manqué de
D'accord. Merci, Joseph Blaise Saïdi de Kisangani.
Maintenant, c'est là que je veux savoir en beaucoup plus.
D'accord. Merci bien. Blaise, vous êtes à Kisangani. Bonjour.
Oui, bonjour, cher Jody. Bonjour à l'invité ainsi qu'à l'auditrice et auditeur de la radio Kabi.
On vous écoute.
Je dois un peu aller tout juste aux questions, cher Jody.
Oui.
Donc, la jeunesse est plus orientée, plus à la...
Allô?
Politique. Donc, je dois aller. La première question, quels sont les principaux obstacles rencontrés par les jeunes dans le démarrage et la gestion de leur activité agricole? C'est-à-dire financement, accès aux terres, intrants, équipement, formation. La deuxième question, quelles compétences techniques et entrepreneuriales doivent être développées pour garantir le succès des jeunes agripreneurs? Je me limite à ces deux questions, cher Jody.
Merci Blaise. Justin Koulou de Fungurume. Bonjour.
Bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi qui nous suivent en fenêtre moment.
On vous écoute.
En tout cas, monsieur Jody, nous devons cesser de rêver pendant la journée au Congo. Parce que les Congolais rêvent même pendant la journée. Il est en train de marcher, il rêve.
Ah oui?
Nous voulons que notre pays se développe. Mais le secteur qui va booster notre pays rapidement à aller de l'avant est trop négligé. Nous savons que le gouvernement congolais n'a pas beaucoup d'argent, mais quelqu'un entre en politique, 2 mois, 3 mois, il a des jupes, il est en train de construire des buildings. Cet argent-là, si on affectait ça à l'agriculture, les Katanga ne devraient pas dépendre de la Zambie. Ça fait la honte. Au Katanga, nous mangeons la farine provenant de la Zambie, or que nous avons des terres arables. Nous nous fions à des produits, les cuivres de 2%, courir derrière les Chinois et manger les produits venant de la Zambie. Je voulais poser la question, M. Joly. Nous avons le ministère des tutelles. Sur leur table pour cette saison agricole, ils ont quel plan, ils ont quel montant pour financer les agriculteurs? Et quelles sont leurs cibles choisies pour cette année? Que j'ai dit, arrêtons de rêver la journée, qu'ils nous présentent les éléments palpables.
D'accord.
Dans leur compte en banque, il y a combien qu'ils vont donner pour les agriculteurs?
Merci.
Je vous remercie.
D'accord, merci pour toutes ces préoccupations. Monsieur Moudilo, vous avez la parole.
Ok, donc je vais rebondir sur certaines questions que j'ai pu mémoriser, mais peut-être que je vais vous demander de revenir sur d'autres questions.
Sur d'autres, bien sûr. Okay.
Donc,
allez-y.
Sur la zone Grand Katanga, hein, parce que j'ai vu qu'il y a deux de nos auditeurs qui venaient de la zone Grand Katanga. C'est une grande zone de consommation avec un pouvoir d'achat réel, parce qu'il y a des... Il y a de l'activité minière qui existe, ce qui crée du pouvoir d'achat. Mais c'est une zone qui dépend, d'un point de vue alimentaire, des transactions transfrontalières avec la Zambie et des fois avec l'Afrique du Sud. C'est une décision qu'il faut qu'au niveau provincial, ils arrivent à prendre. Déjà, les politiques de développement agricole sont parmi les politiques qui ont été les plus décentralisées dans ce pays. Donc, aujourd'hui, les gouverneurs des différentes provinces ont la latitude justement de développer des programmes de développement agricole dans leur propre province. Ça, c'est la première chose.
Et mettre en place des mesures incitatives.
Ouais. Mais, par exemple, la production du maïs au Grand Katanga. Aujourd'hui, la production du maïs au Grand Katanga subit la non-professionnalisation des acteurs qui sont dans ce secteur-là. Vous imaginez qu'aujourd'hui, dans le Grand Katanga, par exemple, nous avons une carence de silos. Les silos qui permettent de stocker le maïs, parce qu'en période de soudure, nous avons une abondance. En période de récolte, nous avons une abondance de maïs dans la zone, mais en période de soudure, nous avons une carence. Et il faut pouvoir équilibrer ces deux périodes-là. Comment on fait ? C'est par le stockage. Mais il y a très peu d'investissement dans les silos et dans les unités de stockage professionnelles dans la zone. Ce qui fait que la plupart des producteurs, la plupart de la production, elle est vendue pendant la période de récolte. Et des fois, il y a des Zambiens qui traversent pour acheter le maïs au Congo.
Ah bon ?
Et vont le stocker chez eux.
En attendant
qu'il y ait soudure.
Qu'il y ait pénurie et puis ils vont venir le revendre plus fort.
À quel moment on va se réveiller et comprendre qu'il faut qu'on change ça ? Deuxième point. La zone de Fungurume, par exemple, c'est une zone propice à la production de la pomme de terre. Mais nous n'arrivons toujours pas à produire la pomme de terre
à Fungurume.
À Fungurume. Il y a vraiment une grande capacité à produire de la pomme de terre. Mais dans toute la zone, il y a beaucoup de restaurants. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui mangent les frites, etc. Pourquoi on veut importer des frites surgelées venant d'Afrique du Sud et pourtant on peut produire là-bas ?
Est-ce qu'il y a des incubateurs dans la région, des agripreneurs ?
Il a eu un temps où la commune de Fungurume et la commune de Dilala, de Kolwezi, avec la province de Lualaba, qui ont voulu investir sur un processus d'accompagnement. Je ne vais pas appeler ça un incubateur, mais il y a une relation avec l'université de Jean Blou en Belgique qui a commencé à se construire pour commencer à accompagner les acteurs à produire selon les bonnes conditions et à commercialiser. Mais le problème dans ces zones, dans ces provinces, c'est que des fois, les acteurs se concentrent plus sur le secteur minier que sur les autres secteurs. Et je pense que la non-structuration des acteurs maintenant sur le terrain, donc des agriculteurs, des agripreneurs, des coopératives, il y a très peu de coopératives qui existent pour mettre les gens ensemble et pour avoir une voix. La société civile dans le Katanga, elle est plus orientée
vers les mines
que vers les produits, la production agricole. Donc il est important que maintenant la population aussi se réveille, se mette ensemble pour dire nous on veut produire, nous on veut faire un équilibre entre le commerce avec la Zambie, mais on a besoin d'accompagnement. Je me souviens qu'il y a l'année passée, lorsque le gouvernement souminois est entré, vous vous souvenez que le ministre Julien Paluku du commerce extérieur avait pris des mesures pour réguler un peu les commerces transfrontaliers.
Oui.
Parce que on avait remarqué qu'il y avait des produits zambiens qui traversaient la frontière, mais qui n'étaient pas de bonne qualité, n'est-ce pas? Mais la Zambie, automatiquement, a fermé sa frontière et ça nous a mis dans une crise. Parce que la balance commerciale avec la Zambie, elle est...
Parce que nous-mêmes, on n'offrait rien.
Ça empiète même de notre souveraineté vis-à-vis des décisions qu'on peut prendre dans notre pays. Voilà. Donc, il y a une opportunité. Je pense que les agriculteurs et les agripreneurs ont une opportunité à investir.
Maintenant, Joseph Delicacy qui a produit les amarantes, mais il n'a pas de marché. Il ne sait pas comment écouler ces produits.
Et Joseph Delicacy, ce que je peux lui dire comme, donner comme conseil, il faut qu'il voie le marché en dehors de Likasi. Il a l'avantage d'être au milieu entre Kolwezi
et Lubumbashi.
Il peut commencer à identifier des marchés alternatifs dans ces zones-là. Il peut commencer à construire des partenariats. Et la zone bénéficie des mécanismes de transport qui sont quand même, avec une société comme Mulicap, il peut envoyer tous les jours des lots vers Lubumbashi s'il développe des partenariats à Lubumbashi. La même chose vers Kolwezi et Funguru, mais s'il développe des partenariats là-bas. Mais il y a une demande. Il y a une réelle demande. Donc, on l'encourage à aller dans les autres zones qui ne sont pas ces zones de production pour essayer de voir quels sont les besoins, mais toujours produire ce qu'il est sûr que la consommation est là. Les consommateurs vont acheter.
Bien, Ruffin, bonsoir. Vous êtes aussi à Likasi. Bonjour. Allô? Bien, on va le retrouver tout à l'heure. Il y a une autre question, je crois, de Blaise Saïdi qui dit comment développer l'agribusiness. Et quelqu'un dit, faut-il être seulement continuer à fonctionner dans l'informel ou il y a moyen de formaliser l'activité?
La meilleure façon de formaliser une activité dans le secteur agricole, c'est de participer à une coopérative. Ça permet de mutualiser les efforts, de ne pas être seul à se battre, mais d'être plusieurs à se battre pour les mêmes causes et de mélanger les petites ressources que chacun a. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les agriculteurs ou bien les agripreneurs n'ont pas beaucoup de ressources. Donc la meilleure façon, vous mutualisez. En mutualisant, vous pouvez acquérir aussi même des infrastructures de transformation. Voilà. Donc la meilleure façon de formaliser, c'est
de mutualiser.
De mutualiser.
Bien évidemment, avoir aussi les documents
dans la mutualisation.
Au guichet unique.
On va dans la mutualisation, selon la loi OADA, les sociétés coopératives existent. Donc quand vous vous mutualisez, vous créez une société coopérative qui va se faire enregistrer. Mais l'idée, c'est d'abord de se mettre ensemble.
Bien. Quelqu'un nous a dit tout à l'heure, les problèmes avec notre jeunesse, elle est plus orientée vers la politique, elle ne s'intéresse pas à l'agribusiness.
Moi, je dirais oui et non. Il faut éviter de penser que la jeunesse se limite aux zones urbaines, encore une fois. Il y a une grande jeunesse qui est dans les zones rurales, qui n'a pas forcément la même vision que les jeunes qui sont dans les zones urbaines, et qui n'a pas accès aux médias, qui a accès à la radio Capi, qui a accès à des médias qui ne sont pas justement les médias des réseaux sociaux. Et celle-là, elle est concentrée sur l'essentiel. Elle se réveille tous les matins, elle va au champ, elle travaille, elle veut juste contribuer un petit peu à l'effort familial pour nourrir tout le monde. Donc cette jeunesse-là, elle doit être encadrée, elle doit être mobilisée pour qu'on puisse maintenant produire ce que nous consommons.
Ruffin, bonsoir, vous êtes à Likasi, bonjour. Allô, Ruffin? Allô? Bien, je pense qu'il y a un souci avec Ruffin. Jeannot Louemboué est à Kolwezi. Bonjour, Jeannot, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport au développement de l'agribusiness?
Monsieur Judy, je vous salue. Merci du thème, hein. Je salue l'invité et les auditeurs. Moi, je pense que tout ce qui touche à l'agriculture, à la manipulation de la terre, dont on se vante d'avoir 80 millions de terres arables, nous devons encourager cela. Moi, je me souviens, il y eut un temps où vous avez eu un gouverneur très célèbre qui avait initié imposant aux entreprises, de toutes les entreprises, d'avoir plusieurs hectares de maïs. Mais au Congo, quand on parle de ça, parce que c'est un opposant aujourd'hui, on va dire qu'il est opposant. Vous voyez un peu à quoi il réduit le raisonnement du Congolais aujourd'hui. Comprenez. C'était une belle initiative. C'est pas parce qu'on est on nage à contre-courant que nécessairement on doit être abruti et non intelligent. Ceux qui sont en train de diriger, par exemple sur là-bas, pourquoi pas ne pas perpétuer cette idée noble d'imposer à toutes ces entreprises qui remplissent Kolwezi et le grand Katan n'achète pas partout, de leur imposer d'avoir impérativement des champs maïs, tout ce dont le Congo a besoin. Et malheureusement, aujourd'hui, tout le monde se focalise sur le minerai avec des taxes, des impôts, tout ce que nous connaissons. Vous comprenez? Je pense que le mieux pour nous, hein, le mieux pour les décideurs que nous avons aujourd'hui, serait de redevenir sur terre, mettre tout orgueil de côté, de prendre cette idée de la perpétuer, imposer aux entreprises, parce qu'ils en ont la capacité et le moyen.
Dites-nous, là-bas, Colosier, qu'il y a des jeunes qui ont des entreprises et qui sont dans l'agribusiness.
Je voudrais aussi rebondir un petit peu.
Allô, Jeannot ?
Allô ?
Oui, je disais qu'il y a à Colosi aujourd'hui des jeunes gens qui sont ils sont dans l'agribusiness, les agripreneurs.
Bon, certainement il y en a, sans que certainement il y en a, mais vous avez dit que ils ont, s'il y en avait ou s'il y en a, ils ont certainement besoin de l'accompagnement de nos autorités.
Et des experts.
De ces gens-là qui évoluent d'une manière individuelle, c'est difficile d'avoir accès aux autorités pour qu'ils aient un accompagnement. Tout ce que tout ce sur quoi je reviens, c'est que comme les entreprises ont des moyens, on peut s'insister là-dessus pour aider à pouvoir cultiver ces terres dont on se vante depuis des années.
Un instant, monsieur Boudilo a une question.
Oui, bonjour Jeannot, et merci beaucoup pour cette proposition qui est très intéressante. Mais je voudrais aussi relever un point. Toutes les communautés aujourd'hui autour des zones minières signent des cahiers des charges avec ces entreprises minières. Il faudrait aussi insister, lorsque vos autorités locales, que ce soit la commune de Manika ou bien la commune de Dilala ou bien le Fungurume ou bien le secteur de Luilou, toutes ces autorités, dans la signature des cahiers des charges avec les entreprises minières, doivent intégrer un aspect agribusiness. Il faut absolument que vous, en tant que jeune, vous, en tant que société civile, vous insistiez auprès de vos autorités locales, parce que c'est en mettant dans le cahier des charges un aspect agribusiness, encadrement des jeunes dans la production agricole, c'est là où vous allez même pouvoir bénéficier de contrats avec les sociétés minières, parce que lorsque vous allez produire, par exemple, des tomates, vous allez les fournir à ces mêmes sociétés minières. Donc, au lieu d'attendre qu'une décision soit prise au niveau national ou bien au niveau provincial, déjà, influencez les décisions qui sont prises avec vous. Parce que j'imagine que c'est plus facile que vous influencez les décisions au niveau local que vous influencez les niveaux national ou bien provincial.
Bien, merci beaucoup. On va donner la parole à Ruffin Bonsoy de Likasi. Bonjour Ruffin. Allô?
Bonjour.
Ruffin n'est pas là. Thomas Ougeni de Kisangani. Bonjour. Non, mais fais signe que Ruffin est là. Allô?
Bonjour, monsieur, aujourd'hui.
Non, là c'est Thomas. Ok, allez-y. Qu'est-ce que vous avez à me dire?
Merci beaucoup, monsieur, aujourd'hui, de la parole nous accorder. Bonjour également à monsieur l'invité. Moi, je pense, monsieur, aujourd'hui, en tout cas, le secteur de l'agriculture, j'ai toujours dit, ça semble être négligé ou sous-estimé dans ce pays. Alors que c'est vraiment un secteur clé. Pour le développement même du pays, mais également parce qu'on ne peut pas vivre sans pour autant manger. Mais il faut faire un constat du budget qu'on accorde à l'agriculture. C'est vraiment très déplorable par rapport à d'autres secteurs. C'est minime en tout cas le budget qu'on accorde à l'agriculture. C'est ce qu'on attire en tout cas l'attention de nos élus et de nos parlementaires quant à ça. Mais je reviens maintenant à la thématique du jour. Moi, je pense que l'accompagnement doit tenir compte de beaucoup de dimensions, monsieur Jody. Entre autres, les dimensions des bons systèmes d'accompagnement passent, entre autres, je disais tantôt, par la formation, mais également par l'éducation continue, monsieur Jody. L'aspect fondamental de l'accompagnement également, la formation. Il faut qu'on puisse former. La formation doit être, en tout cas, étage 4 à 6. Deuxièmement, à part la formation, il y a également, monsieur Jody, l'accès aux ressources financières. C'est vraiment ça aussi. Faut qu'il y ait un bon système, en tout cas, d'accompagnement, qui éclaire, en tout cas, l'accès au financement. On ne peut pas prétendre, à ces agripreneurs-là, aussi longtemps, ils n'ont pas de soutien. Mon prédécesseur a parlé ici il peut y avoir un Kisangani ici, on peut avoir ces gens-là, mais est-ce qu'ils ont des fonds? Est-ce que l'État vient en aide à ce type de gens-là? C'est aussi ça. L'accès aux ressources financières également peut être quelque chose d'encourageant par rapport à ces agripreneurs-là. Mais également, il faut qu'il y ait l'accompagnement également technique, monsieur Jody. On sait que dans chaque domaine, il y a toujours des experts du domaine. Pourquoi pas, il faut qu'il y ait un soutien technique très indispensable. Pourquoi pas recourir à des agronomes? Pourquoi pas recourir à des hommes de la matière qui peuvent nous donner beaucoup des orientations, qui peuvent nous donner beaucoup de stratégies, de techniques quant à ces sens, quant à ça également. Il faut qu'il y ait également un accompagnement technique quelque part là. C'est fier à des hommes, à des experts du domaine qui pourront toutefois nous aider. Mais je vais citer parce que si avant de poser la question, il faut qu'il y ait également le suivi et l'évaluation, monsieur Jody. Le suivi là permettra d'établir en tout cas des mécanismes de suivi et des pactes et des dispositifs qui ont été mis en place.
Très d'accord.
Mais je cite par des quelques questions que j'aimerais poser à l'invité. La première question, monsieur l'invité, pour également avancer, on se dit qu'il faut se référer à d'autres. Je ne sais pas par rapport à ça, quelles sont en tout cas les meilleures pratiques d'accompagnement qu'on aille observer sur d'autres sites. Par exemple, vous, je suis sûr et certain que vous avez circulé à l'étranger ou passé par là. Comment est-ce que vous trouvez ça également? La deuxième question, quel rôle également joue la nouvelle technologie dans l'accompagnement des agripreneurs? Parce que l'homme est appelé également à l'évoluer, à évoluer. Quelle est la part ou l'application de la nouvelle technologie quant à ça? Et je vais citer par ceci, quels sont en tout cas les principaux défis, monsieur Jody, auxquels font face en tout cas nos agripreneurs aujourd'hui, si l'invité pourra nous donner des réponses quant à ça. C'est peut-être ça ce que j'avais à monsieur l'invité, monsieur Jody.
Bien, merci beaucoup. Monsieur Riffin, bonsoir, vous êtes là?
Allô, c'est Achille de Lubumbashi.
Achille de Lubumbashi, oui, bonjour, on vous écoute.
Oui, merci Jody. Je voudrais, avant de poser ma question, faire une précision parce que tout le monde a toujours tendance à dire les budgets alloués à l'agriculture. Ainsi, si chacun de nous, avocat, journaliste, motard, étudiant, chacun devrait avoir un champ. Je pense qu'on pouvait quand même avoir quelque chose, parce que M. Kabila disait, prenez-vous en charge. Parce que assez souvent, on a toujours tendance, les budgets de la RDC alloués à ça. Mais si les 80 millions de terres arables là, chacun devrait avoir son champ. Je pense qu'on pouvait, parce que je connais pas mal de gens qui n'achètent pas la farine qui vient de la Zambie, Salombachi, qui ne vivent que de leur champ. Alors, je voudrais poser la question à l'invité, parce que assez souvent ici, chez nous, nous avons beaucoup de théoriciens. Vous allez trouver un magistrat qui connaît pas mal de lois, mais il a du mal à appliquer ces lois. Et vous savez, vous participez dans des conférences de l'entrepreneuriat, on vous apprend comment transformer 1 000 dollars en 10 000 dollars, alors que celui qui vous forme, lui n'a même pas 100 dollars. Vous allez appeler le ministre du tutelle concernant la question que nous parlons. Il va vous étaler toute une théorie. Donc, après ça, rien n'est fait. Je voudrais savoir comment rendre cette théorie-là à une pratique. Parce que nous-mêmes, on en a assez parlé, bon, rien ne change. C'est pas aujourd'hui qu'on en parle quand même.
Merci. Bien, merci. Riffin, bonsoir, vous êtes là?
Je voulais intervenir avant de prendre, parce que sinon je vais oublier certaines questions. Non, donc déjà je salue les deux interventions. La dernière intervention c'était plus une observation qu'une question en soi, mais je vais intervenir par rapport à ça. Il faut savoir que chaque jour, en moyenne, chaque Congolais mange un repas. Disons en moyenne un repas. Et selon les grandes études, c'est ce repas-là vaut un dollar, n'est-ce pas? On a 100 millions de Congolais. Ça veut dire, en moyenne, je ne différencie aucun Congolais. Ça veut dire 100 millions de dollars. C'est ça le budget alloué. Parce que c'est la loi du marché. Il y a 100 millions de dollars qui entrent sur le marché chaque jour pour acheter de la nourriture. Alors, il faut que...
C'est un marché rentable.
C'est un marché. Pourquoi vous croyez que nos pays voisins qui investissent même dans nos routes, l'Ouganda qui veut construire des routes en RDC, Beni, Butembo, etc. C'est pour écouler les produits agricoles ougandais. Ce n'est rien d'autre. Aujourd'hui, chaque jour, vous voyez des Congolais aller au marché acheter. Donc, le Congolais qui parle de budget alloué, il ne suffit qu'il aille au marché, même que ce soit le marché local dans son quartier ou bien le grand marché dans sa commune, il verra qu'il y a de la nourriture qui est échangée. Et quand tu produis, quand tu vas produire, que ce soit les amarantes, que ce soit
les haricots, les choux,
c'est pour que ça. tu emmènes ça au marché. C'est pour que tu vendes. Maintenant, tu dois subir la loi de l'offre et de la demande. Si tu produis trop et que la demande est
faible,
c'est la demande qui va t'imposer son prix. Si tu produis peu et que la demande est forte, c'est toi qui vas imposer le prix sur le marché. C'est simple. Okay? Donc aujourd'hui, évitons de parler de budget alloué. Parce que si tu comprends juste la notion de business, parce que quand, ici on parle d'agri,
business.
Si tu comprends la notion de business, tu vas comprendre que le marché, c'est lui qui doit te permettre de te motiver à produire pour que tu amènes sur le marché. Maintenant, c'est vrai qu'il y a de l'accompagnement parce que nous sommes dans un pays, nous avons besoin d'accompagnement et certains produits concurrentiels qui viennent des pays voisins, eux bénéficient d'accompagnement de ces pays-là et ça serait déloyal d'être sur le même marché avec des produits qui sont accompagnés et des produits qui sont moins accompagnés. C'est vrai, je suis totalement d'accord, mais il est important que nous-mêmes nous motivions par le fait que nous avons une population qui consomme.
Qui consomme tous les jours.
Et qui consomme tous les jours.
Ça, bon, quelqu'un a dit, quel est le meilleur accompagnement à accorder aux agripreneurs?
Pour moi, le meilleur accompagnement à accorder aux agripreneurs, c'est d'abord de les accompagner à se structurer. La force des agripreneurs viendra dans leur capacité à se fédérer, à avoir une voix qui porte. Parce que celui qui était à Lubumbashi, qui vient de parler encore une fois, quand il parle de la production zambienne, elle est forte. Pourquoi? Parce qu'elle est subventionnée. Elle est subventionnée pourquoi? Parce que les producteurs sont structurés. Ils sont organisés, ils sont dans des coopératives. Et ils arrivent à avoir un poids et discuter avec le gouvernement et avec les partenaires. Mais maintenant, ici chez nous, nous avons plusieurs organisations qui sont censées encadrer. Elles ont très peu de mécanismes qui les fédèrent. Il faut que les gens se structurent. N'attendez pas que l'État vienne vous structurer. Faites-le.
Et les incubateurs qui existent, les accélérateurs.
Les incubateurs par la structuration, vous pouvez créer un incubateur en interne dans votre propre coopérative. Parce que les incubateurs doivent trouver des mécanismes déjà existants. Un incubateur, c'est quoi? Un incubateur, c'est une société de services. Ils offrent des services d'accompagnement, de structuration, de coaching et de mise en place de business plan. C'est tout simplement ce qu'un incubateur fait. Aujourd'hui, maintenant, nous, on demande aussi, on essaie de travailler pour que les coopératives structurées, on les accompagne à avoir de l'inclusion financière, à créer des comptes bancaires, à la fois pour elles et pour leurs membres. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui financent dans une économie moderne, ce sont les banques.
Est-ce qu'il y a des banques agricoles, par exemple?
Tu n'as pas besoin d'avoir une banque agricole dans ce pays. Tu as juste besoin que les banques comprennent que l'agriculture est un secteur économique, pas un secteur social.
Mais est-ce que ces banques ont des produits spécifiques?
Il y a certaines banques aujourd'hui qui ont des produits spécifiques. Il y a certaines microfinances qui ont des produits spécifiques. Mais ça, c'est un combat, effectivement, que l'État doit mener. Le combat de faire comprendre que l'agriculture n'est pas un secteur social. C'est pas de l'humanitaire quand tu investis dans l'agriculture. C'est un secteur économique parce que aujourd'hui,
c'est un business.
Aujourd'hui, la RDC en tant que pays dépense des milliards de dollars pour importer de la nourriture. Lorsque nous voyons, nous analysons nos politiques économiques, nous devons favoriser les politiques économiques qui permettent à ce qu'on consomme local. La consommation locale n'est pas un problème juste cosmétique. C'est un problème économique.
Bien, un instant, on va accueillir Rufin Bonsoy de l'ICASI. Rufin, vous êtes là? Bonjour.
Bonjour, merci, monsieur Jody Kachama. Ainsi, bonjour à l'invité.
On vous écoute, Rufin.
Oui, je crois bien que les problèmes de l'agribusiness a aussi beaucoup de sous-traitances qui peuvent l'accompagner pour avoir une bonne réussite. Parce que nous connaissons très bien que dans notre pays, la RDC, il n'y a pas de routes et puis les problèmes de chemin de fer. Parce qu'auparavant, nous, ici à Likasi, nous gagnions, du café en provenance de la ville de Kananga. Et nous gagnions aussi, par exemple, de l'huile des palmes en provenance de Mweka. Et nous gagnions du riz en provenance de Maniema, ainsi que les arachides. Mais aujourd'hui, comme s'il n'y a pas de route, il n'y a pas de chemin de fer, c'est à ce moment-là que le peuple est en train vraiment de souffrir à cause de ça. Il y a aussi un autre problème. Nous avons aussi des Congolais, certains Congolais de mauvaise qualité qui sont en train de semer des troubles presque partout sous prétexte qu'ils vont, moi je ne sais pas faire quoi, en train de créer des rébellions et autres. Là. Et bien, comment est-ce que les gens vont se développer dans ce secteur? Or, c'est ça même le socle du développement du Congo en particulier, ainsi que de l'Afrique. Si les autres sont en train de gagner aujourd'hui les marchés tels que la Zambie, la Namibie, ainsi que les autres là, parce qu'il y a des routes, et parce qu'il y a aussi leurs frères qui ne sèment pas de troubles dans leur pays, c'est un peu ça. C'est la raison pour laquelle on ne doit pas se limiter seulement sur les ministres de l'agriculture, sous prétexte que là-bas, il n'y a pas, moi je ne sais pas, un bon budget. Mais toutes choses, toutes ces épices doivent entrer en compte. C'est la raison pour laquelle j'aimerais profiter de cette occasion pour demander même à l'invité qu'il y a aussi le problème de la spoliation des terrains. Quelqu'un peut cultiver aujourd'hui, mais demain il sera chassé. Nous avons acheté, mais bon, c'est vraiment compliqué. Mais les Congolais sont forts et ils veulent développer leur pays dans ce secteur. Merci beaucoup, M. Chaudy.
Bien, merci, M. Moudilo.
Mais je pense que le compatriote qui vient d'intervenir a d'une certaine façon raison. Les problèmes sécuritaires qui touchent notre pays déstabilisent notre capacité à nous focaliser sur les choses essentielles. C'est totalement normal. Mais je veux aussi revenir sur le fait qu'il y a une route quand même qui quitte Kolwezi qui est asphaltée depuis Kolwezi jusqu'à Kasumbalesa. Cette route est asphaltée. Donc, si cette route, autour de cette route-là, il peut y avoir beaucoup d'agri-business, n'est-ce pas? Parce que ça traverse deux provinces. Ça traverse
qui quitte Kolwezi jusqu'où?
Kolwezi jusqu'à Kasumbalesa. En passant par Likasi, Fungurume, Lubumbashi, jusqu'à Kasumbalesa. Et c'est par cette même route-là que les produits qui viennent de la Zambie arrivent à Kolwezi.
Et d'ici deux ans, on aura les corridors des bananes.
Le corridor de Lobito. De Lobito et de bananes.
Et de bananes, voilà.
Mais moi, ce que je veux, arrêtons d'essayer de trouver des prétextes. Aujourd'hui, dans cette zone-là, autour de cette route de Kolwezi à Kasumbalesa, nous avons une population évaluée à peu près à 30 millions de personnes. 30 millions.
Donc il y a beaucoup de consommateurs.
Il y a beaucoup de consommateurs. Maintenant, ces consommateurs consomment quoi? Ils consomment des produits de la Zambie. Essayons d'avoir des mesures protectrices de la production congolaise.
Est-ce qu'au niveau de la FEC, par exemple, il y a des...
Au niveau de la FEC
Lubumbashi,
au défaut de la FEC Lubumbashi, il y a beaucoup d'acteurs dans le secteur agricole. Très peu au niveau de la FEC nationale, mais au niveau de la FEC Lubumbashi, effectivement, il y a beaucoup d'acteurs dans de la production agricole. Mais, encore une fois, ils n'arrivent pas à produire assez pour les besoins de consommation. C'est pourquoi il y a toujours besoin d'importation. Mais, moi, je pense que tout défi aujourd'hui est une opportunité de business. Tous les défis qu'on rencontre aujourd'hui dans ce pays, c'est une opportunité de business. L'État a faire sa part, mais les entrepreneurs, ils n'ont qu'à faire aussi leur part. Aujourd'hui, encore...
Malgré les difficultés qui existent, malgré le faible budget, mais on peut faire des affaires.
Aujourd'hui, pourquoi la société civile au Katanga arrive à faire entendre sa voix? Parce qu'ils se sont organisés. Ils se sont rendus compte qu'ils ont besoin de se fédérer. Et en se fédérant, leur voix porte. Pourquoi les agriculteurs ne pourraient pas faire la même chose? Il faut qu'aujourd'hui, les agriculteurs et les agripreneurs s'organisent. Et ça, ce n'est pas l'État qui va venir faire une annonce du « on veut organiser ».
On veut organiser les... Non, pas du tout.
C'est eux-mêmes qui doivent s'organiser. Ok, ça, c'est important. C'est un point très... Après, derrière, en s'organisant, ils vont pouvoir avoir une conversation, une discussion avec le secteur financier, les banques. Nous, on a besoin de financement. Les banques vont dire « Ah, mais il faut que vous nous donniez des garanties ». Ils vont négocier. Les gens vont négocier et ils vont, on va trouver un terrain d'entente. L'État peut être au milieu de cette négociation.
Pour faire l'arbitrage.
Pour faire l'arbitrage. Mais il faut que ces discussions se fassent. Aujourd'hui, on croit que par magie, le secteur financier va s'intéresser à l'agriculture. Le secteur financier a l'argent, il veut très rapidement fructifier cet argent-là. Et avec les risques que porte dans le secteur agricole, ils vont dire non, ça ne nous intéresse pas. Mais aujourd'hui, cette négociation doit pouvoir se faire.
Bien, nous parlons du développement de l'agribusiness. Donc l'accompagnement, vous avez dit d'abord, pour avoir un bon accompagnement, il faut se mettre ensemble, formaliser leurs activités. Et ensuite, les incubateurs aussi doivent suivre. Il faudrait que... Vous avez dit, eux-mêmes peuvent s'organiser pour créer un incubateur.
Absolument. Et une autre chose que vous savez, que les gens ne savent pas, très peu en province, et moi je l'ai su aussi en arrivant ici. Vous savez que chaque année, le gouvernement congolais budgétise à peu près entre 4 à 5 millions de dollars de subventions à donner aux agripreneurs. À plusieurs. Et il y a une moyenne de 1000 agripreneurs qui sont sélectionnés chaque année dans le budget national. Mais malheureusement, l'information ne circule pas. Après, il y a des difficultés à pouvoir décaisser cet argent. Mais c'est un outil qui existe. C'est ce qu'on appelle au niveau du ministère de l'Agriculture le Fonds d'intervention économique.
Pour financer les agripreneurs.
Les agripreneurs. 50 000 dollars, 20 000 dollars, 30 000 dollars chaque année. Mais c'est vrai qu'il y a des difficultés pour que ça soit décaissé. Il y a des agripreneurs qui arrivent à mobiliser.
Et les projets PEJAB, est-ce que vous pouvez dire un mot là-dessus?
Bon, le projet PEJAB, c'est un projet qui est mis en œuvre par le ministère de l'Agriculture avec un financement de la BAD. Malheureusement, ce projet est en train de se terminer. Je crois que l'échéance, la prolongation de l'échéance va finir au mois de décembre. Et les résultats, beaucoup d'acteurs se plaignent qu'ils ne voient pas les résultats. Moi-même, personnellement, je n'ai pas fait l'évaluation du projet, mais il semble qu'il y a énormément de problèmes. Et la Banque mondiale et la BAD va essayer, je pense, de mettre en place un nouveau projet qui va tenir compte des erreurs que le projet PEJAB a enregistrées. Voilà tout ce que je peux dire.
Et les erreurs, c'était à quel niveau exactement?
Je pense que ce projet qui avait une approche et une vision très intéressante pour les jeunes, parce qu'il était question d'accompagner à peu près 1000 jeunes à travers des incubateurs, etc. Les outils de mise en œuvre n'étaient pas prêts au moment du lancement du projet. D'après ce que j'ai cru comprendre, ce qui a fait que ça a retardé tout le processus.
Oui.
Et au lancement, les gens se sont concentrés à mettre en œuvre les outils au lieu de mettre en œuvre le projet.
Bien, merci David Moudilo, directeur général de Connect, un cabinet de consultance et conseil en développement. À la prochaine.
Merci beaucoup Jody et merci à tous nos auditeurs de Radio Okapi.
Bien, c'est par ici que s'achève cette émission de la vie au quotidien. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.